Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les agents pénitentiaires grévistes de la prison d'Alençon, Condé-sur-Sarthe, campent sur leur position, 4 jours après l'agression de 2 surveillants. Pas d'approvisionnement d'établissement ni parloir, détermination intacte des syndicats. Les douaniers sont, eux, en grève du zèle, de peur de devoir gérer le Brexit en sous-effectif. Perturbation en vue à Orly. Un peuple fabuleux, titre le quotidien d'Alger El-Watan, au lendemain d'une nouvelle mobilisation de très grande ampleur dans toute l'Algérie. Nous avons sollicité le commentaire de l'historienne Sophie Bessis. Et puis la Bulle Écho, signée Marie Viennot, pose la question ce samedi de l'impartialité des sages du Conseil constitutionnel. Les avocats des détenus de la prison de Condé-sur-Sarthe déposent des référés liberté pour, arguent-ils, veiller au respect des libertés fondamentales ainsi qu'à la dignité des prisonniers. Ils n'ont pas quitté leur cellule depuis 4 jours, ces prisonniers, depuis l'agression de 2 surveillants par un détenu dit radicalisé. L'approvisionnement en nourriture pose problème, 2 réalités s'entrechoquent. Les personnels pénitentiaires, eux, n'ont pas l'intention de lever les blocages et d'oublier leurs revendications, manque chronique de moyens, sécurité aléatoire, faute d'équipement et salaires insuffisants. Emmanuel Guimarès est délégué national FO pénitentiaire.
On a reçu beaucoup de messages depuis mardi, des messages de soutien, et puis on a été rejoint aujourd'hui par des collègues qui arrivent de d'autres établissements pénitentiaires, notamment celui d'Argentan, de Nantes aussi, et puis on a aussi des collègues qui viennent de plus loin, par exemple de Paris ou de Beauvais ou même de Poitiers. Donc on est en train de voir les rangs se renforcer ici à Alençon, qu'on est sur Sarthe. Il y a comme un point de cristallisation qui se monte sur cette prison depuis mardi. C'est un symbole, malheureusement, oui, parce que, en fait, depuis son ouverture le 15 avril 2013, c'est l'établissement le plus sécuritaire de France, mais c'est aussi l'établissement qui connaît les plus graves agressions, les prises d'otages les plus graves aussi. Nous, nos revendications, elles sont très simples. On veut travailler en sécurité. Merci, créer des postes, c'est pas le problème, sauf qu'on n'arrive pas à susciter les carrières. Commencer sa carrière à 1 400 € net par mois pour se prendre des coups de couteau dans le dos, ça n'attire personne. Pour ça, il faut revaloriser le statut du surveillant, il faut revaloriser son salaire, et forcément, on arrivera à avoir plus de surveillants pour la sécurité.
Des propos recueillis par Marie-Jeanne Delepol. Les représentants forces ouvrières des personnels pénitentiaires rencontreront lundi leur administration et jeudi la garde des Sceaux. Un autre mouvement social s'enracine, celui des services de douane, mouvement d'anticipation en quelque sorte de salariés qui risquent fort de se retrouver en première ligne d'un Brexit au calendrier encore bien incertain. La grève a commencé en début de semaine, l'intersyndicale demande des effectifs supplémentaires, une revalorisation des heures de nuit et de leurs primes de risque. Philippe Lefebvre.
Après Calais et les liaisons transmanches, les douaniers affirment désormais vouloir exporter le mouvement ailleurs, dans les gares ou les aéroports de province comme Chambéry et Grenoble, là où ils effectuent les contrôles des passeports à la place des policiers de l'air et des frontières. Il ne s'agira pas de blocage, non, mais d'un allongement des temps de contrôle, ce qui ne manquera pas de provoquer des retards importants pour tout ce qui est train et avion. Par ce mouvement, les douaniers veulent protester contre les manques d'effectifs et de moyens à quelques semaines du Brexit. Vincent Tomaso est le secrétaire général du syndicat UNSA Douane.
Tout est parti du fait qu'on nous impose de mettre en place un Brexit, je dirais, low cost, sans moyens, sans agents. Parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre d'agents seront présents au moment du début du Brexit, le 29, mais ces agents, ce sont des agents qui viendront de toute la France, donc ils vont être positionnés là pour quelques mois, qui va donc créer un certain nombre de problèmes partout. Puisque ces agents, ils ont actuellement un travail, et ce travail va être effectué par leurs petits camarades qui vont rester.
Et si du côté de Calais et de Dunkerque, le trafic des poids lourds à destination de la Grande-Bretagne a repris normalement hier après-midi, les douaniers l'affirment, ils relanceront là-bas leur grève du zèle dès lundi matin.
Aéroport de Paris prévoit des perturbations ainsi qu'un temps d'attente supplémentaire à Orly. Plusieurs rassemblements de gilets jaunes en cours à Paris, comme en province, avec un important dispositif de sécurité mis en place dans la zone commerciale de Longnes, dans l'agglomération de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Il s'agit là d'éviter le blocage de cette zone où se trouvent de nombreuses grandes surfaces. Au lendemain de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, dans le cadre de la 50e mobilisation de la marche du retour, un Palestinien tué, 45 autres blessés, l'armée israélienne annonce avoir frappé ce matin plusieurs sites du Hamas en réponse à un tir de roquette. Le peuple algérien retrouve ses ailes coupées par un régime qui a confisqué le pouvoir corps et âme. Un pouvoir qui enregistre quantité de défections et qui, tôt ou tard, devra articuler une réponse institutionnelle, constitutionnelle au mieux. Hier, ils étaient près d'1 million à Alger. Hier, ils étaient, toutes générations confondues, mobilisés dans 40 départements à se dresser contre l'humiliation de trop. Celle d'une cinquième candidature à la présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé à Genève depuis le 24 février. Quelle lecture faire de ce nouveau sursaut populaire? Mayouen Bordron a sollicité Sophie Bessis, historienne franco-tunisienne, spécialiste du Maghreb et chercheur associé à l'IRIS.
S'il n'y a pas de provocation et de réaction violente du régime, ce mouvement est parti pour durer incontestablement, c'est-à-dire que non seulement depuis 3 semaines, depuis le 22 février, jour où il a démarré, il ne s'est pas épuisé, mais il ne cesse de monter en ampleur et montre par là le ras-le-bol général des Algériens vis-à-vis du régime et vis-à-vis du président qu'il incarne, qui est un président, comme vous le savez, malade, au bord de la tombe et qui se représente quand même pour un cinquième mandat. Donc, pour l'instant, je pense que cette contestation générale est faite pour durer et pour s'ancrer jusqu'à ce qu'une transition soit trouvée. Maintenant, tout le problème est de savoir quel type de transition sera trouvée.
Justement, en parlant de transition, est-ce qu'il existe aujourd'hui au sein du personnel politique en Algérie quelqu'un qui aurait la stature pour assumer cette mission et qui convienne à la fois au peuple, aux élites en Algérie?
Bien sûr que non. Vous décrivez là une espèce de portrait robot de l'homme idéal, lequel homme idéal n'existe pas. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que le pouvoir est en train de se fissurer par rapport aux manifestations. C'est qu'il y a des gens qui commencent à se rallier à ce très grand mouvement populaire, que d'autres, au contraire, continuent à être dans le déni de ce mouvement et à soutenir cette candidature totalement improbable du président Bouteflika. Donc il y a des tiraillements, il y a des ruptures, et pour l'instant, il est évident que les différents clans du pouvoir essayent de se mettre d'accord sur une transition. Cette transition serait-elle acceptable par la masse des Algériens? C'est cela qu'il faut voir, ou alors est-ce que le régime va vers sa chute? Évidemment, on ne peut pas encore conclure de ces manifestations que le régime algérien, qui est en place et solidement depuis 1962, en est à son dernier jour.
Et face à ces manifestations monstres, est-ce que vous diriez que le pouvoir algérien, au bout du compte, ne va plus avoir le choix et il va devoir finir par flancher?
Le pouvoir algérien est aujourd'hui confronté à un des plus grands mouvements de contestation depuis l'indépendance. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est porté par la jeunesse, qui est porté par une grande partie de la population. Et donc, ce que l'on constate aujourd'hui, ce sont des fissures au sein du pouvoir. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un pouvoir algérien monolithique. C'est-à-dire qu'il semble se diviser en deux branches, une branche jusqu'au boutiste qui menace et qui est pour ce cinquième mandat, et une branche qui estime que un compromis qui serait le plus possible à son avantage est absolument indispensable et cherche un pape de transition, un pape de compromis qui pourrait effectivement calmer la contestation et qui ne remettrait pas en cause fondamentalement les bases de ce pouvoir, dont vous savez que l'armée est très importante dans le jeu politique algérien depuis l'indépendance. Donc il semblerait qu'une des branches du pouvoir suivrait, sans le connaître certainement, l'adage de Lampedusa: il faut que tout change pour que rien ne change.
Sophie Bessis, historienne franco-tunisienne et spécialiste du Maghreb, répondait aux questions de Mayouen Bordron. L'obscurité en partage au Venezuela, deuxième nuit sans courant, à Caracas comme dans 23 états du pays. Panne gigantesque qui a causé la mort de plusieurs patients hospitalisés. Les deux rivaux, Juan Guaido et Nicolas Maduro, se renvoient la responsabilité de cette dramatique faille technique et appellent ce samedi leurs partisans à défiler. C'est un geste encourageant avec les nuances qui s'imposent. Le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, lui-même alimenté par des pétrodollars, envisage de se désengager de certaines compagnies pétrolières avant tout pour se mettre à l'abri d'un recul récurrent des prix du brut, moyennant quoi les défenseurs de l'environnement, loin d'être dupes, veulent y voir peut-être un électrochoc salutaire. Explication de Louise Baudet.
Le geste est salué par les ONG qui espèrent une onde de choc. Le fonds norvégien détient l'équivalent de 1,4% de la capitalisation boursière mondiale. Ses placements sont donc scrutés à la loupe par tous les investisseurs de la planète et son désengagement même partiel de l'or noir est une alerte rouge, veulent croire les pro-climat. Pour autant, cette décision n'engage la Norvège que sur le plan boursier. Elle met à l'abri son fonds souverain des soubresauts du marché, mais ce pays reste un acteur majeur de la filière, le plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest. Pétrole et gaz naturel représentent 20% des revenus de l'État. Et après 15 ans de déclin, la courbe de production d'or noir norvégien devrait rebondir cette année. Le gouvernement a en effet attribué en janvier 87 nouvelles licences d'exploitation, dont 14 concernent la mer de Barents à l'extrême nord. Autrement dit, la Norvège, loin de son image écolo, ouvre les confins polaires à la recherche d'hydrocarbures. 50 ans après la découverte des premiers gisements norvégiens, le pays avait alors le PIB de la Grèce. Il est aujourd'hui l'un des plus riche du monde.
La bulle économique, Marie Vienno.
Dans quelques jours, 3 nouveaux membres vont entrer au Conseil constitutionnel. Tous sont d'anciens élus politiques, alors quid de l'impartialité de ces sages ?
Palais de l'Élysée le 8 mars 2016. Les 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel grimpent les marches accompagnés par la fanfare de la garde républicaine. Ils vont jurer devant le président de la République de bien remplir leurs fonctions.
De les exercer en toute impartialité.
Les juges du Conseil sont réputés n'avoir aucun parti pris. Pourtant, la plupart en ont eu pendant leur carrière, puisque pour l'essentiel, ce sont d'anciens élus. Mais une fois prêtés serment,
je le jure,
leurs opinions politiques sont réputées rester à la porte du Conseil constitutionnel. Ne plus rien attendre, ne plus rien redouter, c'est l'avantage, dit-on au Conseil, qu'il y a à recruter les sages à des âges avancés. Dans toutes les démocraties occidentales, les juges de la Cour suprême ou constitutionnelle sont, comme chez nous, nommés par les pouvoirs exécutifs et législatifs. Leurs décisions ayant des implications politiques majeures, on veut ainsi éviter un gouvernement des juges. Mais à l'étranger, ce sont des professionnels du droit qui sont majoritairement choisis comme sages. En France, ce n'est manifestement pas le critère de sélection. Quand on devient sage, on a 100 décisions à rendre par an, et pour certaines, dans des délais d'un mois. Ce n'est donc pas une mission d'apparat, c'est un travail à plein temps. Alors on ne demande pas aux sages d'aller fouiller dans les textes constitutionnels, ça c'est la fonction du secrétariat général du Conseil constitutionnel qui comporte 5 membres. C'est très peu. Mais personne ne s'est jamais plaint au Conseil de cette organisation. Des professeurs de droit, en revanche, s'en inquiètent et redoutent l'influence des lobbies qui, eux, ont les moyens de faire travailler des batteries d'avocats pour construire des argumentaires étayés. Or, ces argumentaires, que l'on appelle contributions extérieures ou encore portes étroites, ne sont pas rendus publics. Le Conseil constitutionnel n'est pas soumis non plus au registre de transparence qui oblige parlementaires et conseillers des ministères à déclarer leurs rencontres. Pas de conflit d'intérêts possible au Conseil constitutionnel où l'impartialité des juges est renvoyée à leur conscience individuelle. Et quand un ancien président du Conseil fait état dans un livre de ses déjeuners réguliers avec le président du MEDEF, alors qu'il était en fonction, c'est considéré comme une anecdote. Or, les décisions prises par le Conseil constitutionnel ne le sont pas. Anecdotique.
La loi dite Florange a donc été en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. Pas question donc de sanctionner...
Atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit de la propriété, c'est aussi l'argument qui a été utilisé pour retoquer la transparence que les socialistes voulaient imposer aux entreprises pour vérifier qu'elles ne pratiquent pas l'évasion fiscale. Les exemples de ce type sont nombreux. Pour des juristes, le Conseil constitutionnel s'inscrit clairement dans une dérive néolibérale, ce sont leurs termes. À ses critiques, le Conseil constitutionnel répond que des entreprises lui font le reproche inverse. Et il cite l'interdiction des pailles à usage unique qu'il a validée dernièrement. Un partout, la balle au centre, non. Car il y a bien une inflexion pro-entreprise. En 1984, le Conseil considérait que la liberté d'entreprendre n'était ni générale ni absolue. En 1997, le législateur ne devait pas lui apporter d'atteinte excessive. En 2001, ces atteintes ne doivent pas être disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. L'évolution est nette et infuse désormais toutes les décisions du Conseil. Impartial, peut-être est-il, mais ce n'est pas l'apparence qu'il donne. Or, dans un état de droit, le juge doit donner toutes les apparences de l'impartialité. En France, il faut se résigner à y croire jusqu'à ce que les délibérations du Conseil soient publiées, tenez-vous bien, dans 25 ans. La transparence, ce sera pour les historiens, le doute pour les citoyens.
Merci à vous Marie Viennot. Quelques mots de la météo de l'après-midi marquée par une perturbation pluvieuse qui s'étend de la Vendée et le Poitou-Charentes au centre, au nord du Massif central jusqu'au nord-est. Cette édition a été préparée avec Chloé Leblon à la technique, Ludovic Auger.